j'avais deux possibilités. Je dis, oh là, et il y avait une petite voix qui me dit, ne crains rien, c'est moi qui tiens tout entre mes mains. Amen. Alors, je suis vraiment content et je suis vraiment aussi reconnaissant envers cette église, parce que c'est vrai, André et Michel, on s'est connus il y a bien longtemps, dans les années 80. Et pendant un temps, ils nous ont soutenus, ma famille. Donc, c'est pas seulement cette église, c'était ce qu'on appelait à l'époque les communautés chrétiennes des Yvelines. Hein. Et donc c'était vraiment une réponse à la prière pour nous, et c'était dans la perspective de revenir à Madagascar pour vraiment apporter la parole là-bas, hein, c'était ça. Et le Seigneur a répondu autrement. Je peux dire que le Seigneur a répondu à la prière, parce qu'en fait on n'habite pas à Madagascar d'une manière permanente, mais on revient tous les ans. Ouais. Et maintenant, j'enseigne dans l'Institut supérieur de théologie évangélique, et donc depuis 2008, et je crois que c'est plus efficace d'enseigner à des pasteurs, des futurs serviteurs de Dieu. On touche beaucoup plus de personnes, hein. Mais en même temps, on fait beaucoup d'évangélisation, on est en contact avec plusieurs églises, donc on revient avec les moyens modernes aussi. On n'est pas obligé d'être sur place. Donc, le Seigneur nous a vraiment aussi bénis de ce côté-là. Et je vais vous raconter quelque chose rapidement. Un petit témoignage que là, j'ai envie de le raconter là tout de suite. Je le sens que c'est peut-être le moment de donner. Moi, j'étais élevé dans une famille. Mon père était très patriote, on va dire comme ça. Hein, il aimait bien le pays et tout ça, et Madagascar a subi beaucoup de pression coloniale, et il y avait pendant la période coloniale, et mon père a vécu tout ça, et en lui il y avait quelque chose qui était dans son cœur, il était blessé, et pour lui si on meurt pour la patrie, on va au ciel directement. Il nous a élevés comme ça. Et donc, moi, je vivais dans cette ambiance-là. Et dans mon cœur, j'avais comme une blessure. Hein. Et même si le Seigneur m'a sauvé, j'avais comme une amertume vis-à-vis de ce passé colonial. Hein. Et pendant longtemps. Et donc, au moment, donc, on commençait on se disait qu'on allait retourner au pays. Mais dans mon cœur, je vous avoue que même si j'étais avec beaucoup de chrétiens, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de prier pour la France. Ça a été vraiment quelque chose qui m'est jamais venu à l'esprit de demander, d'intercéder. Mais quand le moment est venu, le Seigneur, ma femme et moi, on était en prière un soir, et là le Seigneur nous a montré la blessure, et le Seigneur a guéri, et on a commencé à prier, intercéder pour la France. Hein. Et je vous assure, on a commencé à pleurer. Et on a commencé à prier 5 minutes, 10 minutes plus. Et là, on a compris que le Seigneur aime les Français. Que les Français sont formés de la même pâte que moi et que les autres. Et derrière cette couche rationaliste, intellectuelle, derrière, il y avait un petit bonhomme qui cherche Dieu. Et donc, le Seigneur nous a montré ça, et on avait à cœur, on a prié. Et un jour, donc, André nous parlait du Trocadéro, le Seigneur nous a ouvert la porte pour, avec Jeunesse en Mission, d'annoncer l'évangile au Trocadéro. On ne s'est pas attendu du tout. Jeunesse en Mission nous a appelé une fois, parce qu'on commençait à travailler avec eux. Il a dit, cette année-là, c'était en 2009, tout était bloqué au niveau de l'évangélisation. Parce qu'il venait ce qu'on appelle le service d'été sur Paris, et toutes les autorisations ont été refusées. Et il m'a envoyé un petit mail, dit André, est-ce que tu peux voir du côté de Boulogne, parce que nous on était au point du jour, s'ils peuvent nous accorder une autorisation, on peut se contenter d'une petite place. Et là j'ai dit ok, je vais voir, on va demander, parce qu'on avait eu des très bonnes relations avec les autorités politiques. Et au moment où on priait pour ça, le Seigneur mit dans notre cœur Trocadéro. Et j'ai dit, mais c'est impossible, tout a été refusé. J'ai dit à Sylvia, tu vas demander. Et ça a été accordé depuis 2009 jusqu'en 2013. Donc cette année, il faut prier parce qu'il y a une résistance. Je vous dis ça, il faut prier parce que cette année, c'est pas encore un refus définitif, mais il y a une résistance. Voilà. Priez pour ça, pensez à ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit témoignage. Le Seigneur m'a guéri et le Seigneur a montré. Et dès qu'on a commencé à annoncer l'évangile, à sortir dans la rue, eh ben, on a vu des gens se tourner vers Dieu. Des gens pleurer. J'ai jamais prié pour des personnes dans la rue et j'ai vu des gens dans la rue. On a prié, il y avait des guérisons, il y avait des choses extraordinaires. Le Seigneur est vivant. Amen. Alors, mon témoignage, et c'est ça, c'est... Je fais partie de l'équipe pastorale du Point du Jour actuellement, donc et avec mon épouse. Donc mon épouse, on a eu 5 enfants ensemble. Hein, je vous donne ça comme ça en désordre. Voilà, et je suis vraiment content d'être là. Et quand André m'a invité, c'était assez vite, donc j'ai pas eu le temps de noter la date. Mais le Seigneur m'a mis quand même un message pour vous ce matin. Hein? Alors, je vais y aller direct, hein? Droit dans le vif du sujet. Alors, là, Jésus, il a dit à Lazare, hein, aux sœurs de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il est vivant, il ne mourra jamais. » Jean chapitre 11 verset 25. Vous connaissez tous. Mais avant d'y aller vers cette famille-là, quand Marthe et Marie ont envoyé donc le serviteur pour annoncer à Jésus cette maladie, Jésus a dit cette mort n'est pas, hein, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses comme ça dans notre vie qui est pour la gloire de Dieu. Amen. Et même Jésus est resté encore 2 jours. Hein, vous voyez ça dans chapitre 11, verset 3, je crois. Il est resté 2 jours. Il a laissé pourrir la situation. J'allais dire, il a laissé pourrir. Parce que quand les situations sont difficiles, quand il y a une mer en face de nous et derrière il y a les Égyptiens qui courent après nous, on est bloqué. Quand les situations sont difficiles, les miracles sont d'autant plus grands. Amen. Et notre Dieu est un grand Dieu. Et donc Jésus a laissé courir la situation, mais après il a décidé de partir. Il a dit maintenant je pars. Hein? Maintenant je pars réveiller Lazare. Hein? Il y a un temps où Dieu décide d'arrêter tout et de venir maintenant vers vous. C'est ce que j'appelle le kairos de Dieu, le temps de Dieu. Amen. Hein, vous savez, dans la Bible, il y a des temps de Dieu. Mais il faut attendre ce temps-là. Dieu viendra. Et quand Jésus a décidé, ben, il le fera. Quand il est arrivé donc devant Marthe qui était là, qui a entendu, et elle a dit tout simplement, si tu étais là, mon frère, hein, ne serait pas mort. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois en cela ce matin? Est-ce que tu crois que tu vas vivre éternellement avec Jésus? Ah, quelle joie, hein? Moi, quand j'ai découvert ça, quand le Seigneur m'a montré ça, pour moi, c'est la joie. Il n'y a plus de fin pour moi, je vis éternellement avec Jésus. Il ne mourra jamais. Parce que la vraie vie, c'est cette relation personnelle avec Dieu. Et nous serons toujours avec lui. Hein? Mais Marthe, elle a compris ça comme ça d'une manière religieuse. Hein, pour elle, oui, oui, je sais que tu es le Fils de Dieu et que il va ressusciter dans les derniers jours. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui croient aussi en cela d'une manière religieuse, j'allais dire. Mais Marie, elle était avec les Juifs et elle pleurait. Elle avait vraiment à cœur son frère, mais en même temps, elle croyait vraiment aussi en cette parole de Jésus. Donc, quand on lui a annoncé que Jésus est là, elle se levait promptement, dit la Bible, et elle est venue vers Jésus, elle est tombée à genoux près de Jésus. Voilà, c'est une autre attitude, ça, parce qu'elle croyait fermement. Et Jésus était même troublé dans son esprit, dit la parole de Dieu, et il était troublé et... Il pleurait et il a dit « Où l'avez-vous mis ?» Et Marthe qui arrêtait un petit peu, qui disait « Mais attends, ça fait quatre jours qu'il est mort et il sent déjà. » Et Jésus a dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Donc quand Dieu dit quelque chose, Dieu le fera. Amen. Je vais vous raconter une histoire et je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon je vais déborder. Mais je crois que je vais dire l'essentiel. Ma femme, donc, qui n'est pas là, un jour vous aurez l'occasion, le plaisir de la voir, de la connaître. Ma femme, un jour, elle a accepté le Seigneur, mais elle avait eu une maladie. Elle était sous l'emprise démoniaque parce que sa famille à elle avait des liens avec la sorcellerie, tout un tas de choses, hein, bizarres. Moi, j'avais quelques mois de conversion à l'époque. Et il y avait une emprise sur elle, et à un moment donné, c'était plus elle, c'était une voix d'homme qui sortait d'elle, et elle commençait à crier, elle commençait à gesticuler, elle faisait des choses terribles. Et la famille m'a un petit peu chassé en disant non, 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 maintenant vous pouvez partir. Et c'était très dur. Et à l'époque, moi, j'étais très jeune converti, je croyais que Jésus-Christ est réellement vivant et qu'il peut délivrer. Moi, à l'époque, on n'était pas mariés, on était fiancés. Qu'il pouvait délivrer ma future épouse. Et j'ai persévéré, j'ai prié. Et un jour, j'avais vraiment placé ma confiance en Jésus. Et je me souviens, quand je suis allé la voir, je ne pouvais plus donc venir après. Elle était en train de crier sur le lit, et crier comme ça, et c'était... un oncle qui était là en face d'elle qui essayait de la calmer avec des gestes. C'était un radiesthésiste. Il essayait de calmer, et en plus il fait ça, plus ma femme criait. Et ça, la femme de cette personne-là ne pouvait plus supporter, et elle est venue m'appeler. Elle a dit: est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et là je suis venu, j'ai dit: au nom de Jésus. J'étais derrière la personne, et tout de suite elle s'est allongée, elle ne bougeait plus. Mais elle n'était pas encore délivrée. Et après, ils m'ont fait partir. Donc moi, je continuais à prier. Et je persévérais dans la prière. Et un jour, j'ai vraiment pris la décision de tout mettre entre les mains du Seigneur, de tout lâcher, comme disait André tout à l'heure. Et je me rappelle toujours ce soir-là, je rentrais à la maison. Il y avait ma mère qui a laissé donc le repas. Et je m'apprêtais à manger quand soudain, je sentais une présence autour de moi. C'est une présence réelle. Et je savais qu'il y avait quelqu'un. Je ne savais pas que c'était Jésus. Et j'avais eu besoin, j'avais dans mon cœur, je voulais prier, j'avais envie de prier. Et très rapidement, j'étais à genoux dans ma chambre. Et tout d'un coup, je sentais une lumière, une chaleur qui descend sur moi. Et à ce moment-là, je savais que Jésus était là, et je dis: qu'est-ce que tu vas faire de Sylvia, s'il te plaît? Parce que là, ça fait des mois qu'elle est sous cette emprise-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, j'entendais une voix qui me parlait, et cette phrase magnifique que je n'oublierai jamais: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra, et celui qui vit, qui croit en moi, ne mourra jamais. J'ai entendu ça, j'ai dit: oui, je connais cette phrase-là, je connais cette parole, je connais ce verset, un petit peu à la Marthe, je connais. Mais, et puis de nouveau, mais qu'est-ce que tu vas faire de Sylvia de nouveau? Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il est vivant, il ne mourra jamais. J'ai dit: oui Seigneur, je connais. C'est la troisième fois qu'il me dit, après il n'y avait plus rien. Il y avait une chaleur, et je savais que Dieu était là, hein. Alors, quelques jours après, quelques minutes après, il n'y avait plus rien. Et là, j'ai dit: est-ce que j'avais une hallucination? C'était quoi? Hein? Est-ce que j'ai rêvé? Hein? Et dit: le lendemain, j'irai voir Sylvia. Elle était toujours chez elle. Je dirais, cette démonisation a changé un petit peu de forme. Elle n'était plus possédée d'une manière permanente, mais elle avait des temps de lucidité. J'arrivais chez elle et j'ai dit: qu'est-ce que je fais Seigneur? Et je priais, et j'ai ouvert ma Bible, et je suis tombé sur Ézéchiel 37, qui donc les ossements desséchés, vous connaissez, et Ézéchiel qui demandait à Dieu, et Dieu qui posait la question: est-ce que ces os pourront revivre? Et le Seigneur dit: prophétise sur ces os. Amen. Nous avons besoin de prophétiser, frères et sœurs. La prophétie, ça édifie, ça console, ça exhorte, ça édifie l'église, et ça ressuscite aussi les morts, hein, que ce soit sous forme d'évangélisation, que ce soit sous forme d'exhortation. Donc j'ai dit exactement ce qui a été dit dans la parole, et à l'instant, ma femme a été guérie instantanément et jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Amen.
J'ai préfouté pour vous demander, est-ce que vous voulez qu'il revienne? Est-ce que vous voulez qu'il revienne? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ouais, tout à fait. Amen. On a besoin d'exhorter. Ouais.
Mais s'il revient, il faut qu'il vienne avec Sylvia. Et moi, quand je l'ai connue, hein, j'ai toujours admiré une femme extrêmement équilibrée, qui élevait très bien ses enfants, qui avait toujours une parole du Seigneur sur la bouche. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir d'entendre ce témoignage, parce que je m'en souvenais plus. Peut-être que tu l'avais déjà raconté. Je suis pas sûre. Mais vraiment, c'est une femme remarquable. Je pense que vous serez content de la connaître.
Voilà. Et ce matin aussi, j'ai eu la clé de la question, par rapport à vous, parce que André a dit oui, on va retourner au Madagascar, et puis nous on priait, nous signions, mais ils s'en vont pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on le voyait, on disait, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, bah oui, ça y est, il s'installe en France, voilà. Mais non, la clé, c'est que le Seigneur l'a préparé pour aller là-bas, maintenant, pour enseigner des serviteurs de Dieu. Vous voyez, Dieu a un plan. Il faut lui faire confiance. Amen. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Amen. Gloire à son nom. Alors à bientôt, André. Hein. On va organiser quelque chose.